Il est 7h48, Léa Salamé, votre invitée ce matin, est président du Conseil constitutionnel.
Bonjour à vous Laurent Fabius.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Le président du Conseil constitutionnel s'exprime rarement dans les médias, mais là le moment s'impose. Vous rentrez de New York, où le sommet de l'ONU sur le climat s'est soldé par un échec. Le Brésil n'y a pas participé, Donald Trump a fait une apparition éclair, la plupart des gros pollueurs ont refusé de s'engager davantage. Laurent Fabius, vous qui avez porté, incarné la COP21, vous voyez bien que malgré les cris d'alerte du GIEC, malgré la pression des jeunes, ça ne bouge pas. On fait quoi maintenant ?
C'est vrai que ça bouge pas assez. Le secrétaire général des Nations Unies avait eu raison d'organiser cette session spéciale sur le climat, mais les résultats sont extrêmement modestes. Le fait que beaucoup de grands pays n'y aient pas participé, alors qu'il fallait annoncer des augmentations d'engagement, ceux qui ont participé en général ont dit des choses qui n'avaient rien de nouveau. Donc le moment est extrêmement grave, les petits pas ne suffisent pas et il s'agit de sauver le futur. Donc,
oui, mais une fois qu'on a dit ça, rien ne se passe, pardon.
Si, il y a des choses qui se passent, mais pas assez. Bon, on connaît la référence. La référence, c'est là où je suis impliqué, c'est pour ça que j'ai été invité à New York, c'est l'accord de Paris que j'ai présidé et négocié. Bon, donc il n'y a pas à revenir là-dessus, mais maintenant il faut l'appliquer. Alors comment on l'applique ? Par la pression. Hein, la pression, ça s'appelle ça. Alors la pression des peuples, la pression des gouvernements entre eux.
La pression des jeunes aussi. Greta Thunberg. Des jeunes aussi. Quel regard vous avez sur Greta Thunberg ?
J'étais là, j'ai écouté aux côtés de vice-président Al Gore le discours de Greta Thunberg. Elle a tenu des propos qui sont très sévères et qui d'ailleurs immédiatement n'ont pas été bien accueillis dans la salle. Mais la situation elle-même est très sévère. Et je voudrais pas qu'on passe son temps à savoir si elle a eu raison d'utiliser tel ou tel mot. Ce qui est sûr, c'est que la situation qu'elle décrit est gravissime. Et il y a une augmentation de perception de la population, ça c'est positif, mais les grands gouvernements ne bougent pas. Et donc, il faut revenir à la politique. L'événement le plus important pour le climat, ce sera l'élection américaine. C'est ouais. Clair. Ou bien il y a une réélection du président actuel. Et dans ce cas-là, l'Amérique sortira de l'accord de Paris et entraînera avec elle toute une série de pays. Ou bien il y aura un changement et on reviendra à la politique. Mais
Donc c'est dans les mains des Américains. Ce que vous dites, c'est l'élection présidentielle, c'est
dans seulement, un an. Pas seulement, parce que quand on regarde, je ne vais pas vous assommer avec des chiffres, mais le problème massif du dérèglement climatique, c'est le charbon. Il faut avoir ça en tête. Et le charbon, c'est essentiellement la Chine, l'Inde et les pays d'Asie. Si sont mises en œuvre toutes les centrales à charbon qui sont prévues, oublions les engagements.
Il se passera quoi ?
Ben à ce moment-là, non pas, c'est pas la planète qui va disparaître. La planète, elle continuera d'exister, mais une partie très importante de la population, notamment les plus pauvres, et dans chaque pays, les zones les plus pauvres seront démolies, seront détruites. On ne pourra plus vivre. Vous avez une grande culture. Je relisais un livre de Claude Lévi-Strauss il y a pas longtemps, qui est magnifique, qui s'appelle Triste Tropique. Et à la fin de Triste Tropique, Lévi-Strauss écrit : le monde a commencé sans l'homme. Et il est probable qu'il se poursuivra sans lui. 99% du temps de l'histoire humaine, de l'histoire du monde, pardon, c'est fait sans l'homme. Donc il s'agit de savoir, et je ne veux pas employer des mots grandiloquents, mais il s'agit de savoir si on se met dans une situation, tout le monde, dans une situation où il y a un futur, ou bien si on démolit les conditions de vie de l'humanité.
Quel regard vous portez sur l'action d'Emmanuel Macron sur ce sujet-là ? Est-ce que la France est en pointe sur ces sujets-là, ou est-ce que vous préférez retenir, on a entendu Thomas Legrand, le fait que la France, même la France, ne respecte pas les engagements de l'accord de Paris ?
Vous avez utilisé les mots retenir, je dois l'appliquer à lui-même. Je suis président du Conseil constitutionnel, je ne suis plus membre du gouvernement. Sur le plan international, il est indiscutable que la France est considérée comme un leader qui porte beaucoup d'idées, et c'était encore vrai dans les discours du président Macron hier, avant-hier. Sur le plan national, bon, il y a des discussions, est-ce que c'est suffisant, est-ce que c'est insuffisant, je ne vais pas entrer dans ce débat.
Il y a un fait, c'est qu'on est 4,5% au-dessus de nos obligations de l'accord de Paris,
oui,
les obligations françaises.
Je connais tous ces chiffres, bien sûr, et je pense que on ne risque rien à dire qu'il faudrait en faire encore davantage.
C'est votre maximum. même. On revient sur Greta Thunberg d'un mot. Elle a déposé une plainte lundi avec 15 autres adolescents contre 5 pays, dont la France. Sur le fond, sur la forme, le passage sur le terrain juridique, le fait de porter plainte contre un pays pour inaction climatique, vous en pensez quoi ?
Alors, juridiquement, c'est pas une plainte, c'est ce qu'on appelle une communication. Sur la base de quoi ? Il y a une convention internationale sur les droits de l'enfant qui a été acquise en 1989 et qui s'applique depuis 2014. Et il y a un protocole dans cette convention que nous avons signé, nous la France, à la différence de beaucoup d'autres pays, qui permet maintenant à des enfants de porter plainte, pour parler communément, mais en gros, de saisir un comité d'experts. Bon, c'est ce qu'a fait Greta Thunberg avec une quinzaine d'autres enfants. C'est dirigé contre des pays qui ont signé le protocole. Et donc, ça ne peut pas être dirigé contre la Chine, contre l'Inde, contre des pays comme ça. Et dans ces pays-là, ils ont choisi les plus significatifs, les membres du G20, en gros. Bon, et parmi ceux-là, il y a la France. Donc,
C'est pas un peu bizarre d'attaquer la France juridiquement au lieu d'attaquer justement l'Inde, la Chine,
oui, mais par ce biais-là, ça n'était pas possible. Maintenant, le gouvernement répondra. Vous avez raison de dire qu'il y a un développement des procédures juridiques. Là, je retrouve mon rôle comme président du Conseil constitutionnel. Je regarde ce qui se passe dans le vaste monde. Et en Amérique du Sud, en Asie, même en Europe, aux Pays-Bas par exemple, il y a de plus en plus de recours. Et donc on demande aux tribunaux de dire est-ce que oui ou non les actions sont suffisantes.
Et ça va dans le bon sens ?
Je pense qu'il faut utiliser toutes les armes, notamment l'arme du droit. Vous disiez tout à l'heure, mais l'accord de Paris n'est pas suffisamment appliqué. Parce que juridiquement, on peut pas contraindre les États. C'est la raison pour laquelle Emmanuel Macron, et avec mon soutien vraiment ardent, a promu et promeut toujours quelque chose qu'on appelle le pacte mondial pour l'environnement, c'est-à-dire un traité international qui définirait en quelques articles quels sont les droits et les devoirs des individus, des États et des entreprises.
Laurent Fabius,
c'est du droit.
Justement, c'est du droit. Il y a deux semaines, le tribunal de grande instance de Lyon a relaxé deux militants écologistes qui avaient décroché le portrait d'Emmanuel Macron en retenant l'état de nécessité écologique pour justifier cette décision. En statuant de la sorte, les juges ont-ils fait du droit, de la politique ou de la morale?
Quand j'étais au gouvernement et quand il y avait une question comme ça qui était posée, on disait déjà, un membre du gouvernement ne commande pas une décision de justice. Vous avez dû avoir cette réponse plusieurs fois.
Ouais.
Mais
là,
alors, président du Conseil constitutionnel, a fortiori.
Vous n'avez rien à dire sur cette décision.
J'ai beaucoup de choses à penser.
Mais encore.
Mais il y a une différence entre le penser et le dire.
Mais retenir, pour un juge, retenir l'état de nécessité écologique.
On attend du président de la Cour, du Conseil constitutionnel français d'être, d'autant que pour cette décision ou pour d'autres, nous pouvons être saisis un jour. Donc je ne vais pas vous dire le sentiment que je peux avoir par rapport à une décision que, sur telle ou telle affaire, nous pourrions collectivement prendre dans le futur.
Alors, le président du Conseil constitutionnel peut-il nous dire ce matin, puisque vous êtes chargé du contrôle de la procédure lancée sur le référendum d'initiative partagée, sur la privatisation d'Aéroports de Paris, est-ce que vous pouvez nous dire ce matin, nous donner ce matin le nombre de signatures, on en est à combien ?
Oui, le Conseil va l'annoncer ce matin. Nous en sommes exactement à 822 000 soutiens.
Merci pour ce chiffre. Une dernière question à l'ancien ministre des Affaires étrangères qui avait contribué à négocier l'accord nucléaire sur l'Iran. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, Emmanuel Macron se démène pour essayer d'arracher un accord entre les États-Unis et l'Iran, est-ce qu'il y a une chance que Trump accepte la proposition de Macron de desserrer les taux financiers sur l'Iran ou est-ce que vous trouvez ça compliqué ?
J'essaye de retrouver ma parole diplomatique. Le président américain est tellement insaisissable que rien n'est exclu.
Non. Donc vous préférez retenir une forme d'optimisme ?
L'optimisme. Vous savez, cet accord...
Est-ce que vous êtes inquiet, là, pour la
bien
situation
sûr,
au Moyen-Orient ? Est-ce
monde,
que vous craignez un...
Comme tout le monde. Cet accord du 14 juillet 2015 était un bon accord, puisqu'il empêchait l'Iran d'avoir la bombe atomique et, en revanche, on levait des sanctions.
Ils sont sortis de cet accord.
Les Américains sont sortis alors que l'accord était appliqué, ce qui est complètement, à mon avis, non responsable. Il s'est passé ce qui était prévisible, c'est-à-dire que les Iraniens ont répliqué. Maintenant, il y a l'attaque contre l'Arabie Saoudite. Et on a raison de vouloir revenir à la table des discussions. Sinon quoi ? Sinon ça veut dire que l'Iran va aller vers le nucléaire ou qu'il va y avoir une bombinette qui va être poussée sur l'Iran. Vous avez vu que la Turquie hier a dit mais ou bien tout le monde a l'arme nucléaire ou personne n'a l'arme nucléaire. Donc le Moyen-Orient est une zone suffisamment explosive pour qu'on rajoute pas ce type de risque.
Vous avez retrouvé votre langage diplomatique. Merci à vous,
oui,
Laurent
Fabius. Tout en disant des choses.
Oui, tout en disant.
Ça sert à ça aussi.
Je vous l'accorde. Belle journée à vous.
Merci de votre invitation.
Merci et à tout à l'heure, Léa.